bienvenue. Alors, on reprend notre exploration des archives d'Autodesk, là où on s'était arrêté la dernière fois.
Oui, tout à fait. Après avoir couvert les premières années, on va maintenant plonger dans les débats stratégiques internes, les visions technologiques un peu folles et certains moments clés de la fin des années 80.
C'est ça. On va voir un peu comment l'entreprise naviguait entre un succès commercial assez fou, l'innovation permanente et puis les défis d'une croissance super rapide. C'est parti pour cette analyse ?
Alors, justement, ces débats stratégiques.
Oui, commençons par ça. Les documents, ils révèlent quand même pas mal de tensions. Par exemple, autour d'AutoSketch. C'était pensé pour le bas de gamme, c'est ça ?
Exactement, et ça s'est bien vendu. 70 000 exemplaires, ce n'est pas rien.
Non, mais apparemment, il a été un peu délaissé. Faute de priorité, pas de ressources techniques dédiées.
C'est ce qui ressort, oui. Et ça contraste fort avec l'investissement mis dans l'ASC, architecture, ingénierie, construction, dont les ventes étaient à peine le double.
Ça pose la question des priorités, forcément, et de l'équilibre entre attirer de nouveaux clients et soigner les produits phares.
Tout à fait. Et on voit aussi des regrets, comme cette histoire de modeleur paramétrique 2D.
Ah oui, dès 1989.
Oui, un projet interne appelé RUB apparemment. L'idée, c'était d'avoir un système où les éléments du dessin sont liés, intelligents, quoi. Une technologie clé pour l'avenir.
Et ils ne sont pas allés au bout ?
D'après ces notes, non. Faute d'avoir poursuivi les projets, une occasion manquée, peut-être.
Et puis, il y a cette critique interne, mais alors, féroce sur l'interface d'AutoCAD.
Ah oui.
Alors que le logiciel cartonne, on trouve des notes qui la décrivent comme, je cite quasiment, « inconcevablement verbeuse, obscure, sujette aux erreurs ».
Ah oui, quand même. C'est direct, hein.
Carrément. Comment on explique ça, un produit star avec une interface critiquée de l'intérieur ?
C'est une bonne question. Peut-être que la puissance fonctionnelle primait sur tout le reste pour les utilisateurs de l'époque, ou que le marché était moins exigeant sur l'ergonomie.
Possible. En tout cas, cette critique, elle fait écho à l'acquisition de Generic Software en 89.
Oui, certains documents lient les deux. L'acquisition vue comme une conséquence, un peu tardive peut-être, de l'échec à vraiment pousser AutoSketch et à lancer un produit d'entrée de gamme crédible plus tôt.
Une façon de rattraper le coup, quoi.
C'est un peu ça. Et puis, il y a aussi des décisions difficiles, mais assumées, comme pour AutoSolid.
Le projet de modeleur Solim ?
Oui, ils ont décidé d'arrêter le projet en tant que produit autonome, de fermer le bureau d'Atlanta qui s'en occupait et d'intégrer la technologie dans AutoCAD.
Défendu comme la nature même des affaires. On essaye, parfois ça rate, on apprend et on se concentre sur ce qui marche.
Voilà, une forme de pragmatisme. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'en parallèle de ce réalisme, il y avait des visios carrément futuristes.
Tu penses au projet Cyberspace ?
Exactement. L'idée, c'était de créer une expérience d'interaction 3D immersive, bien avant la vague de la réalité virtuelle qu'on connaît.
L'objectif, c'était quoi ?
Dépasser les interfaces graphiques classiques.
C'est ça. Se positionner en leader de la prochaine génération d'interfaces utilisateurs. Transcender les débats sur les standards graphiques 2D de l'époque. Adet, un investissement jugé modeste et cette idée un peu folle d'un prototype Cyberspace in a briefcase.
Oui, une sorte de démo portable pour aller voir des partenaires et les inciter à développer le matériel nécessaire. Assez visionnaire.
Et dans un autre registre, tout aussi étonnant, il y avait ce laboratoire d'automates cellulaires, le CLab.
Ah oui, avec Rudy Rucker. Et là, attention, CA, c'est pour Cellular Automata, pas conception assistée par ordinateur.
C'est important de le préciser, oui. C'est quoi l'idée derrière ça ?
Les automates cellulaires, c'est ces systèmes simples, comme le jeu de la vie de Conway, où des cellules sur une grille changent d'état selon des règles très locales. L'idée d'Autodesk, c'était d'utiliser leurs propriétés parallélisme, localité, homogénéité, un peu comme les lois physiques, pour simuler des systèmes complexes.
Avec des applications potentielles en intelligence artificielle, ce qu'ils appelaient « on-life ».
C'est ça, simuler la vie artificielle, modéliser des phénomènes complexes. Une recherche très fondamentale, très exploratoire.
Et n'oubliez pas AMIX, l'American Information Exchange.
Encore une vision très en avance. Créer carrément le premier marché en ligne efficace pour vendre et acheter de l'information et de l'expertise technique.
Une place de marché de la connaissance avant l'heure. Impressionnant.
Et au milieu de toutes ces explorations, il y a eu des moments symboliques forts, non ?
Oui, comme l'expo AutoCAD à Moscou en 1988. Apparemment un succès énorme.
Oui, les documents parlent d'un intérêt débordant pour la version russe d'AutoCAD R10 et pour AutoSolid aussi. Et de contrats signés pour presque 2,2 millions de livres sterling. Pas mal pour l'époque et le lieu.
Et juste après, fin 88, ils franchissent le cap des 100 millions de dollars de ventes annuelles.
6 ans seulement après le lancement d'AutoCAD. C'est fou.
Et c'est là qu'on trouve ce mémo célèbre de John Walker qui dit en substance que le succès, ce sont les gens, l'intelligence collective, bien plus que les murs ou le capital.
Ce qui rejoint une autre réflexion intéressante trouvée dans ses notes sur la nature même de ce qu'ils appellent la New Technological Corporation.
C'est-à-dire ?
L'idée que ces boîtes de logiciels fonctionnent différemment. Peu de capital physique nécessaire, des marges potentiellement très élevées, l'information comme principal capital, le levier technologique et la vraie contrainte, c'est pas l'argent, c'est le talent, les idées.
C'est une perspective intéressante. Clairement, ces documents, ils nous montrent une entreprise en pleine ébullition, quoi. Jonglant entre gérer un succès phénoménal et faire des paris technologiques super audacieux.
Absolument. Et on sent bien qu'on n'a fait qu'effleurer certains des débats, des visions, des tensions qui traversaient Autodesk à ce moment-là. Il y a encore beaucoup à dire et à analyser dans ces archives passionnantes.
Tout à fait. On continuera cette exploration lors de notre prochaine discussion.